conférence privée par le père Philippe à Rimont le 15 septembre 1988.
C'est la fête de Notre-Dame de la Compassion, des sept douleurs de Marie. Dans la lumière de la croix glorieuse. Ce que je vous disais hier au point de vue de l'économie divine, c'est sûrement un très grand sommet qu'il faut essayer de comprendre. Puisque Vatican II nous demande de tout reprendre la théologie dans la lumière d'une théologie de l'économie divine. Il faut bien comprendre du reste ce que Vatican II nous demande là. C'est pas un retour au Père, comme certains le font. Ce serait quelque chose un peu matériel. Et puis ce serait avec un tout petit peu d'opposition vis-à-vis de saint Thomas. Je me souviens, je ne dis pas qui, parce que c'est des conversations qui sont quelquefois un peu trop brûlantes. Mais c'était quand j'étais au Solchoir. J'allais de temps en temps à Grandbourg. Ceci se passait donc à Grandbourg, chez le père aumônier, le père Laurentin. Discussion assez véhémente avec de jeunes pères jésuites que je connaissais, qui maintenant sont assez âgés. Et alors il me disait ouvertement, c'était à propos de la question du péché originel, c'était très clair. On a décidé ce retour au Père pour relativiser la pensée de saint Thomas. Je comprends très bien ce qu'il voulait dire, pour montrer que saint Thomas c'est systématique. C'est vrai, quand on regarde saint Thomas de l'extérieur, c'est systématique. Ça paraît systématique. Alors que la pensée des pères est bien plus riche. Il y a une très grande richesse de diversité. Ça va dans tous les sens. Donc on peut faire un choix. Et entre autres, c'était sur le péché originel. Vous voyez bien les positions diverses. Mais ce n'était pas seulement pour le péché originel, c'était un peu pour tout. Alors, je crois que c'est très vrai, et que ce retour au Père est merveilleux. Les sources chrétiennes sont nées à partir de là. Et c'est une richesse pour nous de pouvoir nous replonger régulièrement dans les Pères. C'est du reste une manière pour nous de comprendre saint Thomas. C'est pas la seule source, on le sait. Mais c'est quand même une source. Et ça reste une source. Et à ce point de vue-là, c'est très bon. C'est excellent. Il ne faut pas faire ça en relativisant la pensée de saint Thomas. Ce ne serait pas du tout dans la perspective de l'Église. L'Église montre que saint Thomas a atteint une pénétration dans la théologie scientifique qui n'a pas été atteint par les pères de l'Église. Il suffit de lire saint Augustin et saint Thomas après pour le traité de la grâce, pour s'apercevoir tout de suite de la différence. Alors évidemment, on peut avoir des esprits plus proches de saint Augustin, plus proches de saint Jean Chrysostome. Je prends les deux grands comme rhéteurs, comme grands rhéteurs. On peut avoir des esprits beaucoup plus proches, affectivement. C'est plus facile, beaucoup plus facile, de lire saint Jean Chrysostome que de lire saint Thomas. C'est beaucoup plus facile de lire saint Augustin que de lire saint Thomas. Affectivement, on est en pleine naturalité beaucoup plus immédiate qu'avec saint Thomas. Saint Thomas, il faut du temps, il faut de la préparation. Une fois qu'on a atteint la pensée de saint Thomas, on peut revenir au Père. Il faut même y revenir tout le temps. Parce qu'il y a une richesse d'expression, une richesse affective très grande. Et les pères restent avant les précisions de saint Thomas. Et quand ces précisions sont données, revenir au Père en mettant entre parenthèses saint Thomas, ce serait ce qu'on appellerait une régression. Ce serait un retour vers la disposition, oubliant les principes propres et la finalité propre. C'est pour ça que c'est pas commode d'exister au XXe siècle. Il faut bien le reconnaître. On a un poids de l'Église de 2000 ans. Vous ne pouvez pas vous dire, moi je suis du 4e siècle. Non, non, ça ne va pas. Alors vivez comme au 4e siècle, pour tout, hein, pour tout. C'est impossible. On est de son temps. Mais on doit comprendre ce développement dans l'Église. Et on doit comprendre que saint Thomas n'éclipse pas les pères de l'Église. Saint Thomas nous permet de mieux les comprendre. Et c'est vrai que saint Thomas les comprend dans une perspective. Une perspective que l'Église a reconnue comme une perspective la plus profonde, docteur commun, c'est-à-dire celui qui a été le plus loin dans cette réflexion de théologie scientifique. Et je crois qu'on doit entrer dans la mesure où on le peut. Si on ne peut pas, qu'on ne critique pas, qu'on se taise, qu'on dit « moi, je ne peux pas aller plus loin ». Mais si on peut aller jusque-là, on assume toute la scène qui existe dans les pères de l'Église. Et à partir de saint Thomas, c'est très vrai qu'on peut reprendre tout un aspect de théologie de l'économie divine, qui est très proche d'une théologie mystique. Très proche. Parce que ça nous fait comprendre le point de vue de la finalité. Une théologie de l'économie divine nous montre comment tout est orienté vers le point de vue de la finalité. Or, dans l'économie divine, le sommet qui éclaire tout, c'est le mystère de la croix du Christ. Et à l'ombre de la croix, Marie, dans la compassion. C'est pour ça que ces deux mystères ont quelque chose de si important pour nous. Au point de vue théologique, hein, du point de vue de notre contemplation. Le sommet de toute l'économie divine, c'est bien le cri de soif du Christ. Ici, je m'appuie sur saint Jean. Et c'est assez impressionnant. C'est même très impressionnant. Après le cri de soif, il y a le geste des femmes pleines de compassion. Toujours les femmes qui sont pleines de compassion. Les hommes, c'est toujours un peu brutal. Les femmes pleines de compassion, quand elles entendent le cri de soif de Jésus, elles le comprennent à leur façon. À la manière dont tous ceux qui sont morts sur la croix poussent ce cri de soif. Mais Jésus, lui, meurt sur la croix d'une manière unique. Et le cri de soif du Christ ne peut pas se ramener au cri de soif de tous ceux qui sont morts sur la croix. Il y a autre chose. C'est le sommet de son sacrifice d'amour. Je crois. Alors, Jésus ne méprise pas, et ça c'est très beau, le geste de ses femmes. Pleine de compassion. Le prêtre ne doit jamais mépriser les gestes de compassion des femmes qui sont autour de lui. Il doit faire attention, mais il ne doit pas les mépriser. Ouf. Non. Jésus accepte que ses lèvres soient humectées de ce vinaigre qui normalement doit apaiser la soif. Et il meurt tout de suite après pour nous montrer qu'il n'attend pas les faits. sincèrement assez beau, ça. Enfin, les derniers moments de Jésus, selon l'évangile de saint Jean, sont d'une précision. C'est sculpté dans de l'ivoire. C'est les statues d'ivoire de la Vierge Marie. C'est une précision unique, une délicatesse, une finesse. On doit être sensible à ça dans notre foi. Toute notre théologie est faite pour ça. Elle est faite pour comprendre cela et le saisir et le lire en grec si on peut. Parce que c'est encore plus de force. Et immédiatement après, tout est consommé. Très impressionnant cela. Voyez, le père Finet disait toujours, le jour où Marthe dira tout est consommé, elle quittera cette terre pour le ciel. Marthe n'a jamais dit tout est consommé. Le père Finet ne l'a jamais entendu. Elle est partie au ciel autrement que ne pensait le père Finet. Ça m'a toujours beaucoup, beaucoup secoué, ça. Ce qui montre que les directeurs ne remplacent pas Dieu. La mort est dans les mains de Dieu. Pour avoir une révélation particulière, comment vous mourrez, ne le dites pas. C'est vaut mieux. Marc n'a pas dit tout est consommé. La Vierge Marie l'a-t-elle dit? Non. Jean l'aurait rapporté. Il n'y a que Jésus qui peut dire tout est consommé. C'est ça la croix glorieuse. C'est le consummatum est. Tout est consommé. Tout est achevé. Il n'y a que Jésus qui achève toute l'économie divine. Il en met le sommet. C'est vraiment le sommet. Tout est consommé. C'est très grand, cela. Ça veut dire, pour nous, hein, que l'ultime révélation de Jésus, c'est le cri de soif. Pour comprendre l'œuvre propre du sacrifice du Christ. Il ne faut pas négliger ce cri de soif. Il exprime le désir, la soif de Jésus, le dépassement. La soif, le désir, c'est toujours le dépassement. On ne s'arrête pas à l'œuvre la plus admirable qui soit, l'holocauste de la croix. L'opus Dei, au sens le plus fort, l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre de Dieu, Jésus ne s'y arrête pas. Mais nous, on s'arrête si facilement à ce qu'on fait. Parce qu'on est un peu des artistes. Et l'artiste s'arrête quand il a terminé son œuvre. Terminé. Jésus dit le cri de soi. Pour montrer que toute l'œuvre de la croix est dépassée par l'amour. Qu'il y a quelque chose de plus et de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand, c'est au plus intime du cœur de Jésus. Et quand saint Thomas nous dit qu'il y a une plénitude de grâce quasi infinie dans le cœur de Jésus, il y a donc une plénitude de grâce, une plénitude de charité. Quasi infinie, qui ne peut pas être satisfaite par une œuvre, si éminente qu'elle soit, l'offrande de sa vie. Et l'offrande de sa vie dans les circonstances dans lesquelles elle se réalise. Plus impressionnant pour saisir l'œuvre sacerdotale de Jésus. Toute l'économie divine est une économie sacerdotale. l'économie à partir de Jésus, l'économie ultime, celle du Fils bien-aimé du Père. C'est une économie sacerdotale. Et ce sacerdoce, puisque nous l'avons beaucoup étudié ensemble l'année dernière, en essayant de creuser de plus en plus ce mystère du sacerdoce, puisque selon notre règle de vie, ça doit être pour nous toujours, toujours, là où on revient. Je crois que le sacerdoce de Jésus s'achève dans ce cri de soif, sacerdoce d'amour, sacerdoce contemplatif d'amour, qui regarde le Père et qui nous regarde. Médiation d'amour, qui est une médiation dans ce cri de soif, assumant toute l'œuvre de la croix. Et je crois qu'on peut dire qu'à ce moment-là, le sacerdoce de Jésus, ce pouvoir sacerdotal, cette autorité sacerdotale, est actuée pleinement. L'aspect de la victime et le prêtre sont un dans l'amour. Ils sont un dans ce cri de soif. C'est là la clé de voûte de toute l'économie divine. Toute l'économie divine, elle est là à son sommet. Tout est consommé. Et donc, une théologie de l'économie divine doit être éclairée par ce mystère du sacerdoce de Jésus, s'achevant dans ce cri de soif. Il me semble. Et s'il y en a qui ne sont pas d'accord, je n'aimerais pas maintenant, mais qu'ils mettent leurs arguments. Ce n'est pas suffisant de dire je ne suis pas d'accord. Mais vous êtes des théologiens, et vous devez l'être. Alors l'argument affectif n'est jamais bon. Et je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Vous savez que je suis toujours ouvert, non pas aux arguments affectifs, en disant non, je ne suis pas d'accord, ça je ne suis pas ouvert du tout là-dessus. Parce que je veux que vous soyez intelligent. Il faut leur dire pourquoi. Je crois que c'est très important. Vous voyez, pour répondre au concile, bon, nous soyons très attentifs. Je vois combien le Saint-Père, tout le temps, se réfère au Concile. Et donc nous devons, nous aussi, nous référer tout le temps au Concile. Et quand le Concile demande cela, nous devons faire un effort de dépasser saint Thomas dans une théologie de l'économie divine. Dépasser saint Thomas, c'est pas le relativiser. Hein. C'est aller jusqu'au bout de saint Thomas. Ce qui n'est pas commode. Parce qu'il faut d'abord l'assimiler pleinement, le comprendre pleinement, et ensuite comprendre qu'on peut, en effet, développer. La somme, c'est pour les commençants. Donc, saint Thomas est d'accord avec nous. C'est pour les commençants. C'est pour les étudiants. Et nous devons, nous, vivre, non pas comme des commençants, mais comme des parfaits qui tendent vers la perfection, qui tendent vers l'union parfaite avec Jésus, vers la sainteté. Restons pas toute notre vie des commençants. On se sert de saint Thomas, on s'en sert le mieux possible, avec le plus d'intelligence possible. Puis au point de vue théologique, on va aller jusqu'au bout. Et je crois qu'il y a là quelque chose de très important pour nous. C'est dans cette lumière du cri de soif. Nous l'avons déjà beaucoup vu, ce cri de soif si impressionnant. Au-delà de la réponse matérielle, temporelle, de ces femmes pieuses. C'est la piété, ça. La dévotion. C'est très très bien, il la faut. Mais il faut la dépasser. Il faut un regard théologal. et ce regard théologal, contemplatif, c'est de comprendre justement cet appel vers le Père et éveiller en nous un appel, une soif divine, une soif contemplative pour aller jusqu'au bout. Si ceci est juste, si je ne le croyais pas, je ne vous le dirais pas. Si ceci est juste, le mystère de la compassion de Marie doit se voir dans cette lumière, dans la lumière du sacerdoce du Christ, dans son acte ultime. Marie répond à cette soif. Et tout le mystère de la compassion, dans une théologie de l'économie divine, doit impliquer cette réponse. Alors on comprend pourquoi de la compassion, Marie au pied de la croix, jusqu'au mystère de la dormition, Marie n'a cessé de vivre le mystère de la compassion. Et l'Eucharistie lui est donnée pour qu'elle en vive plus. Et ça, on le sent tellement que la parole ne peut pas expliquer parfaitement le mystère de la compassion. L'Eucharistie est donnée à Marie en premier lieu pour nourrir son âme qui compatit dans la foi, l'espérance et l'amour. Ceci nous aide aller plus loin dans le mystère de la compassion. Puisque maintenant, je regardais beaucoup la compassion pour elle-même. C'est merveilleux. Je me sens poussé à la regarder dans la lumière du sacerdoce de Jésus. Comme le fruit le plus merveilleux du sacerdoce de Jésus. Et alors là, on comprend le cri de soi. Il va, en quelque sorte, s'incarner dans la compassion de Marie. Compassion de Marie dans l'agonie. Compassion de Marie au pied de la croix. Compassion de Marie dans le mystère du sépulcre. Et Marie vit ce mystère de la compassion pendant tout le temps que Jésus la laisse sur la terre. Et par Marie, toute l'Église, dans son mystère le plus profond, dans son mystère joannique, si je veux qu'il reste jusqu'à mon retour. Cette parole de Jésus dite à Pierre. C'est la seule interrogation de Pierre par rapport au gouvernement de l'Église. Dite directement à Jésus. Et lui, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est merveilleux. Là encore, c'est Saint Jean. Donc pour nous, c'est très important. C'est capital pour nous. Puisque la moindre petite erreur au sommet a d'immenses conséquences pour tout le reste. Et la pénétration plus avant dans le sommet éclaire tout le reste. La paternité de Saint Jean, hein, doit s'exercer là. Marie qui répond au cri de soi. Dans ce mystère de compassion, et qui doit continuer après, dans l'Église. Voyez, dans tout cet enseignement de Marie donne, actuellement, à l'Église, à travers toutes ces apparitions, ce sont des signes, c'est pas plus, hein. Surtout, ne remplacez pas l'Évangile par les apparitions, hein. Pas prendre ce que les apparitions de Marie nous donnent comme un nouvel évangile. Ce serait faux. Et ça blesserait l'Esprit Saint. Vous mettriez dans une fausse piste. Vous confondriez la dévotion et la vertu théologale de foi. Ce qui est très grave. La vertu théologale de foi seule est contemplative. La dévotion est merveilleuse pour notre sensibilité et notre affectivité. Si on avait plus grande dévotion, on chercherait peut-être moins à loucher à côté sur certaines séductions. Vous voyez bien. Alors peut-être que chacun d'entre nous, certains d'entre nous, ont peut-être beaucoup besoin de certaines dévotions. Donc ils n'en parlent pas trop, parce que on leur dirait, mais non, ici c'est pas la dévotion, c'est la vie théologale. Très très bien en principe. Mais dans la réalité concrète, nous avons tous besoin d'une petite chapelle latérale, avec des petites bougies. Et surtout pas que le sacristain voit qu'on a volé ses bougies. Surtout pas. Parce que le sacristain serait là pour les reprendre. À leur place, on se tait. Nos dévotions, c'est des secrets. C'est vrai. Nous avons une dévotion dont on parle facilement ici, c'est Marthe. Mais c'est de la dévotion. Moi, c'est ma dévotion principale, Marthe. Là, je peux le dire, parce qu'on le sait, et que pour la communauté, Marthe reste pour nous une dévotion spéciale. Le petit cierge qu'on a volé à Châteauneuf, qu'on a mis ici. Hein? On ne va pas trop le montrer, on le garde. C'est vrai, c'est une dévotion merveilleuse. Et Marthe nous apprend. Et toutes les autres apparitions, c'est des dévotions. San Damiano, c'est une dévotion. Et toutes les autres apparitions depuis sont des dévotions. Il ne faut pas les accumuler trop. Marthe était assez farouche là-dessus. Quand Dieu vous donne un bon puits qui creuse loin, ne cherchez pas les autres. Parce qu'on les accumulerait. Alors, on serait le pèlerin de toutes les apparitions. On mettrait des décorations. Quand on a trouvé un bonne source, on y tient. Et on y reste. J'ai découvert ça. Mais on peut en avoir d'autres. Hein. C'est pas... On ne construit pas une vie contemplative sur telle ou telle dévotion. On la construit sur la foi. Farouchement. On la construit sur la foi. Mais la foi assume toutes les dévotions. Elle les assume, et elle les met à leur place. Et elle nous fait comprendre qu'il ne vaut mieux pas de multiples dévotions. Il en faut une. Ayez une dévotion très grande qui capte toute votre sensibilité, toute votre affectivité. Parce qu'elle a besoin toujours d'une nourriture immédiate. Je comprends, quand on n'a pas connu Marthe, ça peut être désirer de connaître quelque chose d'immédiat pour nous. Quand on l'a connu, notre affectivité est prise. Alors, pas la peine de chercher d'autres. C'est vrai. Et on laisse les autres courir. Alors on se pose la question, est-ce que Marie, c'est une dévotion? La consécration à Marie est-elle théologiquement défendable? Ou doit-on dire, on se consacre au Christ par Marie? Hein? Vous voyez? Vieux dilemme, je me souviens, à Fribourg, les premières années que j'étais à Fribourg. Donc, c'était peut-être dans l'an 50, ça ne m'étonnerait pas. On était venu me chercher en me demandant de faire à Lola, donc devant un public de 1000 personnes, étudiants. Et à ce moment-là, se poser ces questions. Peut-on dire qu'on se consacre à Marie? C'est vieux, hein? Donc depuis 50, j'y réfléchis. Vous, un peu moins. Et on m'a demandé de faire une conférence là-dessus. J'ai fait une conférence. Je me souviens très bien ce que j'ai dit, parce qu'à ce moment-là, j'ai demandé au Saint-Esprit de m'éclairer. Et je continue de lui demander de m'éclairer. Parce que je crois que c'est très important. Il ne faut pas être, vous voyez, comme la Samaritaine dans sa jeunesse. Est-ce qu'on doit adorer sur les hauts lieux ou à Jérusalem? Les Juifs adorent au temple, et nous, Samaritains, on adore au lieu. Donc il y a une petite faille qui est restée. C'est pour ça qu'elle a eu cinq maris. Alors si vous laissez des petites failles comme ça, vous allez loucher. Et vous trouverez les frères, cinq séductions successives. Cinq femmes successives. C'est aussi moins dangereux qu'il y en ait cinq une. Et les sœurs, cinq pères successifs. Il y a pour mieux qu'il y en ait cinq qu'un seul. Il est astucieux, c'est le démon. Il joue sur la multiplicité contre l'unité. Le démon, c'est le prince de la multiplicité. Et l'Esprit Saint, c'est celui qui attire dans l'unité. Laisser en nous un dualisme, c'est jamais bon. On dit ça aux psychologues. Hein. Surtout quand le dualisme est très très fondamental. C'est très très mauvais. Et moi, je suis avec l'abbé Laurentin. Moi, je suis avec la communauté Saint-Jean. La communauté Saint-Jean, on parle de consécration à la Sainte Vierge. Mais alors on a dit non, par Marie. Il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est consacré? Il y a une consécration au niveau de la vertu de religion. Il y a une consécration au niveau de la charité théologale. Tout est là. Théologiquement parlant, hein. Pas effectivement, effectivement, c'est la multiplicité, hein. Mais théologiquement parlant, tout est là. Comme pour notre vie religieuse. Et depuis un certain temps, l'Église parle des vœux, d'une consécration qui se fait au niveau des conseils évangéliques. Le concile, Paul VI, est très frappé de ça. Et c'est très beau. On ne veut pas mettre nos vœux au niveau de la vertu de religion. Parce que mettre nos vœux au niveau de la vertu de religion, c'est très bien, mais c'est pas ça. Les vœux prennent toute notre vie et tout notre être. Même si le droit canon dit qu'on peut de temps en temps déclarer qu'on est exempt. Nos vœux prennent toute notre vie. C'est pour ça qu'un engagement perpétuel, c'est en face du Christ qu'on fait. Et au niveau du mystère de la compassion. On ne peut pas rompre le mystère de la compassion. On peut hésiter. Oh, devant les vœux, je comprends très bien qu'on hésite. Surtout aujourd'hui. Le terrain est fragile. On peut hésiter, mais une fois que l'Esprit Saint nous a engagés, il nous a engagés pour toute notre vie. Alors là, on est au niveau des vertus théologales. Si c'est lié au sacrifice du Christ, c'est au niveau des vertus théologales. Et les vœux au niveau des vertus théologales impliquent une consécration de tout notre être. Mais faisons toujours attention. Le droit canon n'est pas la théologie. Le droit canon n'existera plus dans le ciel. Il n'y aura plus de cours de droit canon. Les canonistes continueront de faire des petits cours, des sessions. Il n'y aura plus personne qui ira. Parce que le droit canon n'existera plus dans le ciel. Il existe sur la terre. Il faut des examens de droit canon. Pour ceux qui doivent passer ces examens. passer, c'est ça, il faut les passer. Il faut, puisque l'Église en demande, c'est un acte d'obéissance. Mais on ne fait pas une théologie à partir de trois canons. On fait une théologie à partir de l'enseignement actuel de l'Église. Un enseignement théologal. Et donc c'est Marie qui nous fait comprendre nos voeux. Marthe disait ça admirablement. Le renouveau de la vie religieuse, c'était la consécration de Marie. Consécration virginale de tout son être. Et nos voeux ne peuvent pas se séparer de cela. Autrement, encore une fois, on les fait juridiquement, exactement comme quelqu'un qui se marie, en louchant. Et après tout, si ça ne colle pas, je pourrais dire qu'il y a annulation de mariage. Mais c'est effrayant. Alors on rabaisse tout à un niveau qui n'est plus divin. Nos voeux s'appuient sur cette consécration de la Sainte Vierge. Et donc, en face de Dieu, c'est quelque chose d'absolu. C'est quelque chose d'absolu. C'est pas relatif. On est engagé totalement. Si la providence fait qu'il y a tel ou tel événement, ça nous regarde en face de Dieu. C'est pas le droit canon, même si le droit canon dit, vous pouvez le faire. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est comme la loi. Il y a la conscience personnelle, c'est tout à fait différent. C'est en face de Dieu et pas en face du droit canon qu'on doit régler une question de vocation. C'est en face de Dieu. C'est Dieu qui nous jugera. C'est Dieu qui est mort pour nous, à la croix. Et c'est le sang de Jésus. Et quand on s'engage dans le sang du Christ. C'est une alliance dans le sang du Christ. Mon époux est un époux de sang. Et ça, c'est le mystère de la croix et c'est le mystère de la compassion. C'est tellement important, cela. Parce que, aujourd'hui, vous voyez, l'aspect légal l'emporte tellement sur l'aspect métaphysique. Et sur l'aspect théologal. Et sur la vie théologale. Nos voeux sont au niveau de notre vie théologale. Bien, notre consécration à Marie est à ce niveau. Il est évident qu'au niveau de la vertu de religion, on ne se consacre qu'à Dieu. Puisque on adore que Dieu. Et la première consécration, c'est l'adoration. Quand vous adorez Dieu, vous vous consacrez à Dieu. Et à lui seul, dans tout votre être, ontologiquement parlant. C'est la grandeur de la vertu de religion qui nous prend dans notre relation de petite créature à l'égard de Dieu. Et c'est la petite créature qui reconnaît sa dépendance radicale à l'égard de Dieu. Tout chrétien est consacré, et radicalement consacré, par l'adoration. Un chrétien qui n'adore plus perd le sens de sa consécration. Il devient aberrant. Il perd le sens de sa consécration. Et ça arrive quelquefois, même dans les monastères. Ça explique pourquoi des moines quittent à 50 ans. Pourquoi des moines quittent quelquefois très vite après leur consécration. Ils n'adorent plus. Quand on adore, on ne peut plus, on est lié. Ontologiquement, c'est un lien métaphysique dans l'amour. Ça qui est extraordinaire. Le mystère de l'adoration, c'est un mystère qu'on doit creuser aujourd'hui. Vous voyez, mais aujourd'hui, puisque beaucoup de théologiens ne veulent plus regarder la création, le mystère de la création, par le fait même, ils ne regardent plus l'adoration. Donc, cette première consécration, elle est à l'égard du Créateur. Mais nous avons une nouvelle source de vie, une recréation qui se fait à la croix, qui se fait dans le sang du Christ, qui se fait à partir du cœur de Jésus. Oui. La création s'est faite par la parole de Dieu dans la surabondance de l'amour. La seconde création, la recréation se fait à partir du cœur blessé d'agneau, dans le sang de Jésus, les dernières gouttes d'eau et de sang. C'est le mystère de la grâce. Et le mystère de la grâce nous lie au cœur de Jésus. Cœur sacerdotal de Jésus, au cœur victimal de Jésus. Nous sommes ici proches de Paris, et Marthe nous avait recommandé d'être attentif à ça. Nous sommes consacrés au cœur victimal de Jésus. Cette consécration, elle repose sur quoi? Sur la charité et le don de piété. C'est le don de piété qui nous consacre au cœur victimal de Jésus. Et nous le sommes tous si nous répondons à l'appel de Jésus. Quand je serai attaché sur le bois, j'attirerai tout à moi. Et bien, cette attraction d'amour est une consécration. On est consacré à Jésus par les sacrements de baptême, de confirmation, l'Eucharistie. La pénitence. Le sacrement de pénitence se consacre à Jésus. Jésus veut que, à l'intérieur de sa médiation sacerdotale, Marie nous soit donnée. Elle nous est donnée comme mère. Voilà ta mère. Vous ne pouvez pas changer cette parole. Hein. Jésus ne dit pas, voilà ta médiatrice. Et voilà ta mère. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Quand vous regardez votre mère, vous dites, ah oui, 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 vous avez joué un rôle de médiateur, de médiatrice merveilleuse. Mon père était insupportable. Il avait une autorité effrayante. Grâce à vous, j'ai pu vivre. Oui, c'est très bien. Mais c'est pas ça, la mère. Une mère peut enseigner. Une mère peut éduquer. Une mère peut être médiatrice. Mais elle est mère. Et la mère, c'est celle qui donne la vie. C'est celle qui donne la vie. Et Marie donne une vie divine. Elle donne une vie divine. Alors vous voyez, ça change tout, ça. Il y a une réponse que nous devons faire à Marie. Que nous devons faire à Jésus. Quand il nous donne sa mère. Vous croyez que Jean n'était pas consacré à Marie? C'est difficile, moi. Elle est immaculée, mère de Dieu, toute sainte. Elle nous est donnée comme mère. Mais c'est une maternité dans l'amour divin. C'est pas une maternité au niveau de la création. Marie, non, elle est une créature. Oui, alors, je n'adore pas Marie. Je l'aime. Je l'aime. Et j'ai pour elle un amour de tendresse. Et c'est elle que j'aime. Et parce qu'elle est médiatrice de toute grâce, je l'aime encore plus. Et je ne m'arrête pas à sa médiation. Je m'arrête à sa maternité. C'est elle que je regarde, sa personne. Et je me consacre non pas à sa médiation, mais à sa maternité divine. Par le don de piété. Et ceci n'enlève rien à ma consécration à Jésus. Ceci n'enlève rien à ma consécration radicale par rapport au Créateur. Je l'aime. C'est une consécration dans l'amour. Consécration de surabondance dans l'amour. Vous voyez, si vous regardez bien création et recréation, la session de théologie de cette année-ci, création, recréation, j'aurais dû donner ça comme apothéose. Hein. Vous voyez, je vous la donne tout de suite. Si vous voulez comprendre pourquoi on se consacre à Marie, comprenez la différence entre création et recréation. Entre la vertu de religion, qui est une vertu morale, et la vertu théologale de charité, qui s'épanouit dans un exercice divin grâce au don de piété. Et c'est le fruit de notre piété. Alors à ce moment-là, on commence à comprendre comment on peut se consacrer à Marie. Et pas uniquement dire, J'ai consacré à Dieu par Marie. Oui, c'est vrai, c'est très très vrai. Mais vous pouvez aller plus loin. Alors pourquoi pas aller plus loin? Pourquoi vous arrêtez à un ordre naturel? Et vous ne voyez pas que la sagesse divine va à un ordre divin. Et c'est cet ordre divin qui m'intéresse. C'est cette recréation. À partir du mystère de la croix et du mystère de la compassion. Alors je demande à tous ceux qui ne sont pas d'accord de m'écrire leur argument. Parce que je ne veux pas qu'ils soient comme la Samaritaine dans le doute toute leur vie.